Bonjour à tous. Il y a 15 jours se tenaient de très nombreuses animations à l'occasion des Journées du patrimoine. Certaines associations et institutions décident à cette occasion de célébrer l'héritage transmis par les femmes et font de ces journées les Journées du matrimoine. En mettant en avant la mémoire des femmes du passé, le matrimoine réinscrit les femmes qui ont fait des découvertes scientifiques ou qui ont fait avancer l'humanité d'une façon ou d'une autre sans être mises en lumière ou restant dans l'ombre de leur mari, de leur père ou de leur homologue masculin. Notre héritage culturel, c'est la somme du matrimoine et du patrimoine. On commence à en entendre parler et c'est très bien ainsi. En fait, il n'y a pas que la journée du matrimoine pour fêter ça, pour mettre en avant l'héritage que nous ont transmis les femmes. Aujourd'hui, je vous emmène à Groix, cette île bretonne située en face de l'Orient, premier port tonnier français de 1870 à 1938. On dit parfois que pris par le travail de la mer, les hommes laissent leur place, je devrais dire, de la place aux femmes. Certains qualifient cette société de femmes de société matriarcale. Allons voir ça de plus près. Bonjour, nous sommes à la médiathèque de Groix et je suis venue rencontrer les gens qui travaillent ici. Donc si vous pouvez vous présenter.
Oui, bonjour, je suis Magali Jossien, la responsable de la médiathèque de l'île de Groix.
Voilà, et donc moi je suis venue ici, je suis en vacances là pendant quelques jours et je me disais, tiens, qu'est-ce qui se passe sur une île? Comment est-ce les thématiques qu'on a l'habitude d'aborder sont vues ici? Et qu'est-ce qui peut être fait ici à Groix, par exemple, par rapport à la journée de la femme? Alors est-ce que lorsque il y a cette journée du 8 mars, est-ce que c'est une journée particulière pour vous ou pas?
Pas spécialement. Au niveau de la médiathèque, on n'a pas spécialement mis en avant ça. Il y a quelques années, on avait fait une exposition, puis on avait une amie, Véronique Leclerc, qui avait fait un petit dossier sur la question, mais c'est pas un sujet particulièrement porteur ici, dans la médiathèque, j'entends. Par contre, la librairie L'Écume travaille beaucoup, Anne et Estelle travaillent beaucoup sur le sujet, et lisent des textes, plusieurs personnes lisent des textes à cette occasion-là, ouais.
Alors notre émission s'appelle « Il n'y a pas que le 8 mars », c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre une journée pour parler de ces thématiques. Donc dans votre médiathèque, qui est quand même c'est impressionnant quand on rentre dans cette médiathèque parce qu'elle est toute neuve, toute belle, et il y a plein de choses, on ne s'est pas opposé les yeux. Alors j'imagine donc que vous avez plein de choses, que ce soit des DVD, des films qui ont trait avec des thématiques qui sont autour de la femme. Alors je crois qu'on a tiré des rayons quelque chose.
Si vous parlez de Groix, hein. Donc il y a Anne Paulier, femme de Groix ou la laisse de mer. Anne Paulier, elle est pas née ici, mais sa mère était originaire de l'île de Groix. Et elle a beaucoup écrit de documents terre ou de correspondances qui parlent des femmes, en général à Groix, puis de sa vie à Groix, en fait, de ce qu'elle a aimé ici.
Alors, tout à l'heure, quand on préparait l'émission, on discutait de la vie de Groix avant. Et c'est vrai que Groix avait quand même une particularité.
Oui, Groix était le premier port tonnier de France. Et donc, et puis c'est beaucoup plus peuplé que maintenant. Il y a eu jusqu'à plus de 5000 personnes vivant ici. Et c'était une société matriarcale, puisque les hommes partaient en mer. Et puis les femmes restaient, puis géraient le quotidien, les enfants, travaillaient aussi aux conserveries qui existent à ce moment-là, conserveries qui étaient à l'ancienne, notamment à l'ancienne écomusée, à la place de l'écomusée actuelle. Donc oui, une vie fortement tournée autour des femmes, ouais.
Voilà, donc quand on parle de la société des femmes de Groix, c'était de la société du temps des tonniers. Maintenant, oui. Effectivement, cette activité est vraiment a disparu pratiquement.
Ah oui, il n'y a plus de tonniers. Il reste 5 ou 6 pêcheurs, je saurais dire. 5 pêcheurs. Mais il n'y a plus de tonniers, non. Non, l'activité pêche est très très réduite et du coup, l'aspect fortement marqué du matriarcat, je pense qu'il existe dans l'histoire de l'île, forcément. persistera toujours, mais c'est plus aussi marqué que ça l'a été auparavant, quoi.
Vous me disiez que les activités professionnelles étaient beaucoup tournées vers ce qu'on appelle par ailleurs les petits boulots, donc qui sont des boulots qui sont des travaux d'intérim ou saisonniers en fait.
Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Enfin, on est quand même nombreuses à travailler sur Groix, mais au niveau de la facilité à trouver du travail, c'est un peu dur, donc il y a beaucoup de saisonniers, ouais. Mais là, c'est homme ou femme, hein, c'est indifféremment, dans l'hôtellerie, les ménages, la restauration, tout ça. Ouais.
Mais on ne voit pas comme dans certains endroits où les emplois les plus précaires sont destinés ou sont réservés aux femmes. Ça, c'est quelque chose que ça soit. Ici, c'est pas aussi marqué. Sur l'île, c'est femmes et hommes pareil.
Non, oui, c'est pas spécialement les femmes qui ont des boulots précaires. Non, c'est un peu. Non, c'est pas ciblé comme ça. Ouais, c'est pas si. Si catégorique que ça, non.
Et puis alors, il reste un livre qu'on voit de partout, dans beaucoup de magasins à Groix en ce moment. Donc, Elle, les femmes de Groix, tome 1, si vous pouvez nous le présenter, ce livre.
Oui, c'est un livre qui vient de sortir avec des photographies d'Alain Roupy et des textes de Gilbert Duval. Donc, en fait, pendant toute l'année dernière, ouais, c'est ça, Enfin, Alain Roupy, le photographe, est venu photographier toutes les femmes qui travaillent sur l'île, donc faire des portraits. Et ils ont retracé l'histoire de la femme avec Gilbert Duval, ils ont retracé l'histoire de la femme dans la vie à Groix, et en parlant des femmes qui travaillent actuellement, quoi. Donc bah, je vous parlais par exemple de Anne Estelle, de la librairie L'Écume, les voici. Et dans tous les métiers, donc là, les métiers ne sont pas mentionnés, mais on retrouve toutes sortes de personnes. Toutes sortes de métiers représentés, en fait. Et il y aura un tome 2 qui continuera aussi, parce qu'ils ont quand même photographié énormément de femmes.
Et lorsque je pose la question de la journée du matrimoine, Magali me dit qu'elle n'en a jamais entendu parler.
Ce qui était important, c'était les lavoirs à l'époque, quand tout se faisait, quand il n'y avait pas de machine à laver, tout se faisait à la main. Donc là, c'était réunion de femmes, et puis ça discutait de la vie, hein, la vie quotidienne. Maintenant, il y a une association qui existe, l'association Saint-Gontierne, qui s'occupe de la restauration de les lavoirs, du nettoyage, du lavoir et fontaine. C'est pas particulièrement des femmes, c'est hommes et femmes qui gèrent cette opération de protection du patrimoine, quoi. Je sais pas si on pourrait trouver faire spécifiquement une journée matrimoniale. Comme ça, a priori, sans trop réfléchir, je pense pas, non.
En fait, dans ce que vous nous dites, c'est qu'effectivement, si les gens travaillent sur le lavoir était quand même un endroit qui était investi avant tout par les femmes. Donc peut-être que apporter des histoires autour de ce, pas spécialement de la pierre, mais aussi de la vie qui était autour, c'est peut-être une des préoccupations d'ailleurs de cette association. Ou alors si elle s'occupe que de la remise en état des pierres.
Non, c'est plutôt que de la remise en état. En tout cas, pour le moment, je ne sais pas comment ils souhaitent évoluer.
Voilà, donc on a fait le tour par rapport à votre travail plus de directrice, de responsable de la médiathèque. Si on déborde un petit peu de ce travail-là, de votre travail, et si on va un peu plus sur les choses qui seraient plus de la vie d'une femme sur l'île. Et d'abord, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vivent sur l'île? Et puis, est-ce que ce sont des choses qui sont prises en compte? Le fait, par exemple, de pouvoir aller au centre de planif ou pas?
Déjà, on a deux cabinets médicaux. Donc, il y a une possibilité d'avoir des interlocuteurs médecins, hommes ou femmes, sur l'île. Et puis, l'Orient n'est pas très très loin. Donc, ça se passe plutôt là-bas. Puis les jeunes filles, de toute façon, à partir du lycée, elles sont en France, elles sont en face.
On va garder ça. Donc elles sont en France et en France, à l'Orient, on va dire,
voilà,
en face.
Ouais. Donc du coup, elles peuvent y avoir accès. Voilà. Puis il y a les parents aussi qui sont derrière, peut-être ou pas, ça dépend des familles, bien sûr. Mais non, ici, non, il n'y a pas. Mais il y a les médecins, donc si ça... Ce sont des référents, les médecins, les pharmaciens, le pharmacien.
Voilà, donc en fait, c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais Groix étant quand même très proche de la Terre, du continent, donc on est à combien de temps ?
Trois quarts d'heure de traversée bateau, donc, et on arrive dans le centre de l'Orient, et là tout est à portée de main, donc ouais, c'est facile.
Voilà, donc nous, quand on a l'habitude de vivre sur le continent, on va dans les îles et ça, on a donc l'impression d'avoir un endroit un peu retiré. En fait, on est un peu dans la représentation, quoi. Hein,
voilà. Ça dépend des îles. Ça dépend des îles. Tout le monde n'est pas logé. On est une des seules îles si facile d'accès, en tout cas dans les îles du Ponant, quoi. Si facile d'accès vers l'extérieur.
Au sujet de la vie des femmes à Groix, on pourrait dire qu'il y a un avant et un après âge d'or de la pêche thonnière. Avant, on est à la fin du 19e siècle, les femmes et les hommes ont chacun leur espace. À l'homme, la mer, à la femme, les travaux des champs, le commerce, le lavoir, les femmes assurent les activités vitales, faire des enfants, nourrir la famille, entretenir la maison, les hommes rapportent de l'argent au foyer. Ici, comme ailleurs, dans le monde rural de l'époque, les enfants aident leur mère.
Les femmes s'occupaient du foyer, des légumes, faisaient le beurre, s'occupaient des vaches et des cochons. On n'avait pas le chauffage. Et moi, toute gamine, je prenais les bousses de vaches, j'en faisais des galettes et on se chauffait avec ça l'hiver.
À Groix, comme dans toutes les bordures de l'océan, la terre est enrichie pas par le fumier qui demande un grand nombre de bêtes, mais par le goémon. Ce sont les femmes qui ramassent le goémon rapporté par la mer sur les plages. Une activité supplémentaire en plus des tâches quotidiennes, pas vraiment de temps libéré dans une journée, c'est le lot de la majorité des femmes de cette époque. Témoignage d'une jeune fille.
Après la mort de maman, il me restait deux petites sœurs de 4 et 6 ans, un frère de 8 ans. Les autres étaient plus grands. L'un était mousse, l'autre novice, le dernier matelot. J'étais chargée de famille bien avant ma majorité, car mon père allait en mer. On avait des vaches, des cochons, des poules, des lapins, tout ce qu'il fallait pour se nourrir. Je me suis mariée à 19 ans avec l'autorisation de mon père. Quand mon fiancé venait à terre, les gens disaient que je couchais avec lui alors que nous n'avions pas de relation sous la surveillance de ma grand-mère. J'ai continué à m'occuper de mes frères et sœurs qui m'ont été confiés par l'assistante sociale de Lorient, car je n'avais plus personne. Sinon, c'était l'orphelinat. Je faisais à manger. Ils allaient à l'école au CRA, où je les accompagnais. J'allais les chercher. Je préparais le casse-croûte. Je faisais la lessive pour toute la famille au lavoir de Kermarec. Je donnais à manger à la vache. Je nettoyais le poulailler. Allais chercher à manger pour les lapins. Aller chercher de l'eau à la fontaine avec mes frères. L'assistante sociale venait une fois par mois sans prévenir. Elle regardait si les lits étaient faits.
Chargée de famille, dit cette femme. Et quel poids ! Certaines activités considérées comme honteuses se faisaient de nuit.
Dans les années 1945-1950, j'étais adolescent et me promenant le soir à la tombée du jour, j'avais remarqué un balai incessant d'ombres discrètes entre le village de Leuc-Maria et les anses de Port-Morville, Port-Gigeau, et celles situées derrière le quai. En les observant de plus près, je m'aperçus que c'était uniquement des femmes, le plus souvent habillées en noir ou gris, et qui portaient toutes un seau à la main. Je compris plus tard que c'était des seaux hygiéniques, quand je vis ces femmes les vider à la mer et les rincer. L'eau courante n'avait pas encore été installée sur l'île. Chaque famille disposait ainsi d'un seau qui, chez nous, était posé dans la cave, et ailleurs, le plus souvent, dans l'écurie attenante. Cette tâche devait avoir quelque chose de déshonorant car je n'ai pas le souvenir d'y avoir vu un homme. Nous habitions au centre du village de Leuc-Maria et non loin de la maison, nous possédions une écurie dans laquelle nous élevions deux vaches et un cochon. Tous les deux jours, il fallait évacuer le fumier. À l'aide d'une brouette, c'est ma mère qui traversait le village pour le transporter sur les sillons que nous possédions à Claret. Jamais je n'ai vu mon père le faire à sa place. Moi-même, j'aurais pas osé le faire.
À Groix, on pêchait la sardine et puis après le thon blanc. Le germon, c'est son nom, ne se vend pas bien à l'étal. Les travaux d'appert et l'apertisation qui s'en suivit, l'apertisation, c'est les techniques de conservation en boîte, contribuent en 1870 au développement de la pêche au thon et de sa commercialisation. les hommes valides de 12 à 50 ans partent de longs mois en mer et ne passent pas plus de 3 à 4 mois sur la terre. Ceux qui ne partent pas sont mal vus.
En épousant un marin, elle savait que leur vie prendrait un rythme bien particulier, réglé par les temps en mer et les temps à terre du mari. C'est ce rythme qui rend la situation des femmes de marin exceptionnelle. Elles jouissaient en effet d'une plus grande liberté que les femmes dont le mari est présent tous les jours, mais en contrepartie, elles doivent gérer leur maison seules, assumant les responsabilités qui en découlent, qu'elles ne peuvent donc pas partager.
Alors, Groix, île de femmes ? Par obligation, oui. Comme dans d'autres circonstances, les guerres par exemple, où les femmes sont seules pour gérer l'ensemble des activités. Aux tâches imparties aux femmes s'ajoutent alors celles des hommes, entre autres les corvées volontaires, qui ne sont volontaires que de nom puisqu'il s'agit de travaux de voirie. Et puis quand il faut prendre une décision, c'est pas facile, il n'y a pas de téléphone portable pour demander un conseil ou un avis, c'est la femme qui décide. C'est ce contexte qui donne aux femmes la possibilité de vivre d'une façon plus autonome, plus librement aussi, n'étant pas sous l'emprise quotidienne de leur mari. La particularité de l'économie liée à la pêche et à Groix en particulier, c'est le travail saisonnier lorsque les bateaux rapportent le poisson, c'est l'été. Travail des champs et travail à la conserverie tombent en même temps.
Produire toujours plus. Les femmes de Groix se sont livrées sans l'aide de leurs époux à ces activités. Accompagnées de leurs enfants, elles ont, à la force du poignet, sous tous les temps, fait vivre cette grosse pierre écaillée aux bordures de l'océan. Groix, l'île des fées, dit-on. Sans doute parce que Groix était l'île des femmes. Et Dieu sait qu'elle le méritait, ce titre de fée. La baguette magique savait ici s'effacer habilement devant le manche de la houe et de la fourche. Alors Groix, île de femmes ?
J'ai commencé à 8 ans. J'essuyais les boîtes. C'est parce que j'étais bien avec la gérante, sinon on n'avait pas le droit de travailler avant 12 ans. À 12 ans, j'ai commencé à gratter le thon pour emboîter, et après je suis devenue emboîteuse. Il n'y avait pas d'usine l'hiver. On commençait à peu près le 14 juillet. On commençait à 7 heures. On avait 1 heure pour manger, moi je revenais à la maison, et je retournais pour 1 heure, et on n'avait pas de vélo et on n'avait pas d'auto. Et le soir, si on travaillait la nuit, on venait à 7 heures manger à la maison. On retournait pour 8 jusqu'à minuit. En soirée, la contremaîtresse désignait une femme qui devait entonner une chanson pour donner du cœur à l'ouvrage. Ces gens servaient à maintenir la cadence des ouvrières quand elles devaient travailler tard le soir. Il y avait déjà des contrôles sanitaires sur les chaînes de production.
Une personne spécialisée sentait le thon pour savoir si c'était de la bonne qualité. On l'appelait la renifleuse.
Alors oui, les femmes géraient l'île au quotidien, mais est-ce qu'on peut qualifier cette organisation de matriarcale ? Le pouvoir collectif, le pouvoir institutionnel n'était pas pris par ces femmes. Il y avait toujours le prêtre qui était là, entre autres. Il faudra attendre très longtemps pour que certaines se présentent aux élections. En 1945, lorsque les femmes ont le droit de vote, une seule femme se présente. Elle est au 21e rang. Aujourd'hui, parité oblige, les choses ont changé, mais pas encore de femme mère ni de première adjointe. Groix, aujourd'hui, s'est reconvertie au tourisme. Les hommes ne partent plus aussi longtemps en mer. Aujourd'hui, Magali nous a dit qu'il ne restait qu'une toute petite dizaine de pêcheurs, et encore, chacun, homme ou femme, a repris une place plus traditionnelle dans le partage des tâches depuis le milieu du XXe siècle. Le domaine de la pêche et de la mer est resté celui des hommes. Le travail des champs, qui s'est modernisé, le travail du commerce, le travail en usine, lui est devenu mixte.
Je suis groisillonne d'origine, avec une grand-mère qui a travaillé dans les conserveries et un grand-père matelot, mais qui ne sont pas restés sur l'île. J'ai vécu des vacances sur Groix jusqu'à rencontrer mon futur mari, insulaire pure souche qui ne voulait surtout pas quitter son caillou. J'ai fait des études d'enseignante et j'ai eu la chance d'avoir un poste sur Groix, à temps partiel, puis à temps plein. À côté de cela, nous nous sommes investis dans le projet d'Erwan, l'aquaculture. Vivre à Groix s'est imposé puisque l'amour s'y trouvait, le travail s'y trouvait. J'ai été professeure pendant 12 ans au collège Saint-Udy, puis J'ai basculé dans l'aquaculture et dans la restauration bar. Nous avons repris le pub et en avons fait un restaurant de fruits de mer. Je tiens maintenant le café de la Jetée depuis le départ à la retraite des parents d'Erwan. Je fais la petite main dans le domaine de l'aquaculture, secrétariat, élevage, vente sur le marché, expédition des commandes. Finalement, la condition de la femme agro n'est pas très différente de ce qui existe sur le continent. La femme travaille et assure les tâches ménagères agro comme ailleurs. Erwan est de temps en temps à cheval entre Groix et l'Irlande et je me trouve seule à gérer le quotidien. Éducation des enfants, secrétariat, café, un peu comme les femmes de marins dans le temps. Heureusement, la marée ne dure qu'une dizaine de jours.
Quel emploi du temps! Mais ce que disent certaines d'entre elles de ces femmes, c'est que cette longue période tonnière qui a duré plus de 60 ans, ce qui fait deux voire trois générations, cette période a marqué les relations hommes-femmes dans l'île. On dit des femmes grésillonnes qu'elles ont du caractère.
Les rythmes sont très différents entre l'été et l'hiver, un peu comme dans le passé, où la vie était rythmée par la pêche. On se retrouvait davantage dans le temps au bistrot, avec des pêcheurs ou des marins, une ambiance de gouaille et de partage que l'on retrouve moins maintenant. Le bistrot reste, comme dans le passé, un lieu d'homme. Un homme seul va venir dans un bar, beaucoup plus rarement une femme seule. Mais ce lieu était et reste encore le plus souvent tenu par les femmes. Parmi les enfants de ma génération, il y avait encore beaucoup de pères marins, dans la marine marchande essentiellement, et les enfants ont souvent grandi avec un père absent physiquement. C'est aujourd'hui presque fini. Je ressens plus de respect pour la femme sur Groix qu'ailleurs. On dit que la femme groisillonne est une femme de caractère.
Cependant, peu de femmes ont marqué de leur empreinte l'histoire de l'île. Il n'existe que trois rues à Groix qui portent le nom d'une femme, dont une impasse. On termine par ce témoignage-là.
On a assez de chance. Les conditions de vie de la femme, aujourd'hui sur Groix, sont vraiment bonnes. Ce n'est d'ailleurs pas tant la condition de la femme que la condition de l'humain, et particulièrement de l'humain vieillissant. C'est merveilleux d'habiter Groix. Parce que tu peux même y perdre la tête. Tu peux rester chez toi, parce que même si tu perds la tête, les gens te connaissent. Pour la femme à Groix aujourd'hui, c'est comme partout. Il y a des forts caractères chez les femmes d'un certain âge, mais aussi chez les jeunes. C'est un peu la continuité des femmes qui ont vécu des temps difficiles, qui devaient avoir du caractère, qui ne se laissaient pas rouler dans la farine, qui ne se laissait pas faire.
Quitte l'île de Groix, je ne peux que vous conseiller d'aller vous y promener ou de feuilleter ce premier tome du livre « Elles, les femmes de Groix ». Nous retrouvons maintenant Magali qui nous présente ses coups de cœur. On commence par un DVD.
Il y a un film de Sarah Paulet en fait, qui parle de la maladie d'Alzheimer. Et c'est l'histoire d'un couple, mais on suit vraiment ce couple, mais c'est vraiment centré autour d'elle, la femme qui est malade. Donc c'est une adaptation d'une nouvelle d'Alice Munro. Et puis c'est Julie Christie qui joue le rôle et c'est absolument magnifique. C'est une très très belle histoire d'amour, très respectueuse. Et en fait, c'est un couple qui décide, elle, elle est malade donc d'Alzheimer. Et ils ont décidé que quand la maladie s'aggraverait, elle irait dans un centre. Et donc il décide de la mettre et lui il va continuer à aller la voir et la perdre et accepter de la perdre en fait. Parce que elle va l'oublier forcément. Et c'est un superbe film. Ouais, c'est très très beau. C'est très...
D'accord, à noter. Donc Loin d'elle, on n'oublie pas Un grand amour.
Sinon je peux vous proposer en livre, il y a tous les livres d'Alice Fernet. Tout simplement tous. Là, j'ai choisi celui-là parce qu'il me plaît particulièrement. Il s'appelle Les Autres. En fait, c'est l'histoire d'une famille. Ils se retrouvent, ils se réunissent à l'occasion d'un anniversaire, de l'anniversaire des jumeaux de la famille. Donc, chacun avec sa propre famille, ses enfants, sa femme, et ils se retrouvent chez la mère. Et l'histoire est racontée du point de vue de toutes les personnes en présence. Ça s'appelle Les Autres, je ne sais plus si je l'ai mentionné. Et chaque chapitre parle du point de vue d'un des jumeaux. Ensuite, on revoit les mêmes scènes par l'autre jumeau, par la mère et tout ça. Et on pourrait penser a priori qu'il y a beaucoup de répétitions. En fait, non, pas du tout. Chacun voit la situation qu'ils sont en train de vivre de son propre angle, avec ses propres sentiments, ses propres affects. Et dans l'ensemble, son œuvre, je trouve qu'elle dresse très très bien la psychologie, les portraits de ses personnages. C'est vraiment très 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 intéressant.
À découvrir, Alice Fernet. Alors moi, je ne connaissais pas, donc du coup, voilà, quelque chose, un auteur, une femme à découvrir.
Une autre femme aussi, pareil, je dirais la même chose de Siri Hustvedt que de Alice Fernet. Elle sent très très bien ses personnages. La psychologie, les portraits, l'intériorité est très très bien rendue avec une écriture à mon goût, j'allais dire intelligente, mais c'est pas vraiment un bon mot, mais très fine, très 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 ciselée.
Sensible en tout cas.
Ouais, sensible, ouais. C'est presque du tableau en fait.
Alors ça, c'est une femme américaine, hein, c'est ça. Merci Magali pour ces propositions. Et puis, un dernier clin d'œil avant de quitter Lille, une BD, mais une BD qu'on peut trouver ici, en prêt à la médiathèque Césaire, « Facteur pour femmes ». Eh ben, cette BD raconte les aventures d'un facteur qui est le seul homme valide dans l'île. On vous laisse découvrir la suite. Voilà, nous refermons les vacances et les îles bretonnes. Mais à Groix, comme partout en France, on se tient au courant. Le 28 septembre dernier, journée des droits de l'IVG, c'est le moment de faire le point sur l'avancement de ce droit. Avancement, c'est à voir, les anti-IVG sont bien présents partout dans le monde. En Argentine, pays du pape François, le gouvernement a rejeté à la fin du mois d'août la légalisation de l'avortement. Depuis des mois, des milliers de femmes ont mené leur campagne pour la conquête du droit à l'IVG, autour de mots d'ordre féministes qui exigeaient la maîtrise par les femmes d'elles-mêmes et de leur vie. Deux semaines après le refus de la loi sur la dépénalisation de l'avortement, un mouvement d'apostasie collective en Argentine prend de l'ampleur. Plusieurs milliers de femmes et d'hommes de tout âge renoncent publiquement à la foi chrétienne. On pourrait dire qu'ils rendent leur baptême. Laïcs mais aussi pratiquants catholiques décident par cet acte de montrer leur opposition aux injonctions de l'Église argentine. Parmi elles, Nora Cortinas, elle a 88 ans. Elle est une des personnes qui ont fondé l'association Les Mères de la Place de Mai. Voilà ce qu'elle dit. « Je suis une catholique croyante et je n'avais jamais pensé à l'apostasie. Mais le jour de la votation de la loi sur la législation de l'avortement, le cardinal Poli a donné une messe pour qu'elle ne passe pas. C'était un comble pour moi. C'était la goutte qui a fait déporter le vase, alors que des femmes, surtout les plus pauvres, meurent des suites d'un avortement. L'Église doit être saine, rester discrète. » J'accepte qu'elle ne permette pas l'avortement car c'est son dogme, mais de là à s'impliquer, non. On rappelle qu'aujourd'hui, dans le monde, le droit à l'IVG est accessible pour seulement 39,5% des femmes. Qu'il reste encore 47 000 décès qui sont causés par des avortements non sécurisés. On sait que dans de très nombreux pays, l'IVG est totalement interdit, soit soumis à des conditions. Je viens de parler de l'Argentine, mais pas loin de nous, en Europe, en Pologne, à Chypre, en Irlande aussi, les choses sont difficiles. En Irlande, par exemple, en mai dernier, 62,18% des 3 500 000 habitants ont voté pour autoriser l'IVG, alors que les députés travaillent actuellement sur le projet de loi. L'avortement n'est pas pour l'instant encore autorisé. Attention, en France aussi, les anti-IVG travaillent à faire avancer leur idée. Pas plus loin que le 13 septembre dernier, dans un reportage télévisé, le président du syndicat national des gynécologues, Bertrand de Rochambeau, qualifie l'IGV d'homicide et il persistait alors que la personne en face de lui lui demandait s'il s'était pas trompé. Rappelons-nous qu'un droit n'est acquis que s'il est défendu. Avant de nous quitter, je voulais faire quelques remerciements. Tous les textes lus ont été empruntés, je le rappelle, au livre de Gilbert Duval, « Elles, les femmes de Groix », édité chez Groix Éditions et Diffusion. Notre émission touche maintenant donc à sa fin. Vous venez d'écouter « Il n'y a pas que le 8 mars », une émission animée par moi-même, Joël, avec la participation de Annie Langelier, Françoise Arpineau, Christian Buinant, merci à eux. Merci aussi à toi, Pauline, notre technicienne préférée pour la réalisation. Mais parce qu'en une journée, on ne peut pas célébrer tous ceux et toutes celles qui ont fait avancer les droits des femmes vers l'égalité, parce que 24 heures, c'est trop peu pour aborder l'égalité dans le travail, le droit de vote pour les femmes dans le monde, l'utilisation de leur image. Alors, dans ce cas-là, rendez-vous lundi 5 novembre pour notre prochaine émission. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission-là lundi en 15, le 15 octobre, et bien sûr en podcast sur www.radio-b.fr. Restez à l'écoute des bonnes ondes. Bonne soirée à vous.